Épilogue. Cet épilogue contient des fragments de correspondance entre Mademoiselle Grace Roseberret et M. Horace Holmcroft, auxquels sont joints des extraits du journal du révérend Julian Gray. 1. M. Horace Holmcroft à Mademoiselle Grace Roseberret. Je me hâte de vous remercier, chère Mademoiselle Roseberret, pour la très aimable lettre que j'ai reçue hier par le courrier du Canada. Croyez-moi, j'apprécie votre généreuse disposition à pardonner et à oublier ce que j'ai pu vous dire de rude et de déplacé dans un temps où l'art d'une aventurière avait fermé mes yeux à la vérité. Dans cette Grèce qui m'a pardonné, je reconnais le sentiment de justice naturel à une vraie femme du monde. La naissance et l'éducation ne perdent jamais leurs droits. Je crois en ces deux choses-là, grâce à Dieu, plus fermement que jamais. Vous me demandez de vous tenir au courant des projets de la passion de Julian Gray et de la conduite tenue envers lui par Mercy Merrick. Si vous ne m'aviez pas fait l'honneur de m'expliquer vos raisons, j'aurais pu éprouver quelque surprise à une question de ce genre faite par une femme dans votre situation. Mais les motifs que vous me donnez de votre curiosité sont au-dessus de toute discussion. L'existence de la société, comme vous le dites avec tant de raison, est menacée par l'influence lamentable des idées prétendues libérales qui se répandent dans tout notre beau pays. Nous ne pouvons espérer de nous protéger nous-mêmes contre les intrigants intéressés à se faire une situation parmi les personnes de notre rang, qu'en devenant en quelque sorte implacables, nous devons aussi, dans l'intérêt de la défense, nous familiariser avec les artifices que font très fréquemment réussir ces intrigants. Aucun tableau ne saurait mieux nous faire voir que ce qui se passe chez Lady Janet, le degré d'audace où la ruse peut atteindre et le comble pitoyable d'illusion où la crédulité peut s'abandonner. C'est pourquoi, quelque répugnance que nous éprouvions pour Mercy Merrick et Julian Gray, nous devons les surveiller. En reprenant mon récit où je l'ai laissé dans ma dernière lettre, je veux d'abord vous bien fixer sur un point. Certaines expressions échappées à votre plume m'ont donné à penser que vous blâmiez Julian Gray comme étant la cause de la regrettable visite de Lady Janet au refuge le jour qui suivit la sortie de Mercy Merrick de sa maison. Ceci n'est pas tout à fait exact. Julian, comme vous le verrez tout à l'heure, a commis assez de fautes pour qu'on ne le rende point responsable d'une erreur de jugement dans laquelle il n'a pas eu de part. Lady Janet, comme elle me l'a raconté elle-même, s'est bien rendue au refuge de son plein gré pour demander pardon à Mercy Merrick du langage qu'elle lui avait tenu quelques heures auparavant. « J'avais passé une si cruelle nuit de souffrance, m'a-t-elle dit, qu'aucune parole ne saurait la dépeindre. » Voilà, je vous l'assure, les propres expressions de sa seigneurie. Je réfléchissais à ce que mon orgueil, mon égoïsme et mon entêtement m'avaient amené à dire et à faire, m'a-t-elle dit encore. Je crois que je me serais jeté à genoux pour demander pardon à Mercy si elle m'avait laissé faire. Mon premier moment de bonheur fut celui où j'obtins d'elle la promesse qu'elle viendrait me voir quelquefois chez moi. Vous conviendrez avec moi, j'en suis sûr, qu'une extravagance du genre de celle-là est à plaindre plutôt qu'à blâmer. Rien de plus affligeant que de voir l'amoindrissement des facultés à mesure que l'âge avance. C'est un sujet de grande inquiétude que de se demander si l'on pourra laisser longtemps à la pauvre Lady Janet la direction de ses propres affaires. Je saisirai l'occasion de toucher délicatement quelques mots à ce sujet la première fois que je verrai son notaire. Mais je m'éloigne de ce qui vous intéresse. N'est-ce pas étrange, je vous écris aussi familièrement que si nous étions de vieux amis. Revenons à Julian Gray. Innocent d'avoir poussé sa tante à cette première visite au refuge, il est coupable du moins de l'avoir encouragé à y retourner une seconde fois le lendemain du jour où je vous écrivis ma dernière lettre. Le but de Lady Janet en cette circonstance n'était ni plus ni moins que de plaider la cause de son neveu, devenu très humble prétendant à la main de Mercy Merrick. Figurez-vous la descendante d'une des plus vieilles familles de l'Angleterre, priant une aventurière dans un refuge de faire l'honneur à un ministre de l'Église d'Angleterre de devenir sa femme. En quel temps vivons-nous? Ma chère mère a versé des larmes de honte lorsqu'elle a appris cela. Combien, j'en suis sûr, vous aimerez et admirerez ma mère. J'ai dîné à Mablethorpe House sur une invitation précise, le jour même où Lady Janet revenait d'accomplir sa dégradante mission. « Eh bien, lui dis-je, après avoir attendu, naturellement, que le domestique eût quitté la chambre. « Eh bien, me répondit Lady Janet, Julian avait parfaitement raison. « Parfaitement raison en quoi ?»« En disant que la terre ne renferme pas une plus noble créature que Mercy Merrick. L'a-t-elle refusé de nouveau ?»« Elle persiste dans son refus. Dieu soit loué !» Ce souhait, je l'avais formé avec ferveur et je l'exprimais avec feu. Lady Janet posa sa fourchette et fixa sur moi un de ses regards perçants. « Il se peut qu'il n'y ait pas de votre faute, Horace, dit-elle, si votre nature est incapable de comprendre ce qu'il y a de grand et de généreux dans d'autres natures supérieures à la vôtre. Mais le moins que vous puissiez faire, c'est de vous méfier de votre faculté d'appréciation. » À l'avenir, gardez vos opinions sur des questions que vous ne pouvez comprendre. J'ai de la tendresse pour vous, par amour pour votre père, et j'ai voulu envisager sous le point de vue le plus favorable votre conduite envers Mercy Merrick, mais je la considère en toute sincérité comme la conduite d'un fou. Ce sont encore ses propres paroles, mademoiselle Rosemary. Je vous affirme une fois de plus que ce sont ses propres paroles. « Mais n'abusez pas trop de mon indulgence, a-t-elle continué, et n'insinuez plus de nouveau qu'une femme qui, si elle mourait cette nuit, serait digne de la première place au ciel, n'est pas digne d'être la femme de mon neveu. » Je vous exprimais un peu plus haut ma conviction que la pauvre Lady Janet ne serait pas bien plus longtemps en état d'administrer ses affaires. Peut-être, alors, trouviez-vous ce jugement un peu prompt. Qu'en pensez-vous à présent ? Il va sans dire que je crus inutile de répondre sérieusement à cette folle réprimande. D'ailleurs, j'étais trop réellement frappé par un pareil affaiblissement de principe qui ne provient que trop clairement d'un affaiblissement des facultés mentales. Je fis une réponse respectueuse et douce, je fus favorisé en retour de certains récits de ce qui s'était réellement passé au refuge. Ma mère et mes sœurs, quand je leur en ai répété les particularités, en ont été dégoûtées affreusement. Vous en serez également dégoûtées au même point. L'intéressante repentie, attendant la visite de Lady Janet, se fit naturellement surprendre dans une touchante occupation domestique. Elle tenait un petit enfant trouvé qui dormait sur ses genoux et apprenait en même temps les lettres de l'alphabet à une horrible petite vagabonde dont elle avait d'abord fait la connaissance dans la rue. Voilà l'espèce de tableau vivant et plein d'artifices qui peut en imposer à une vieille femme. Vous voyez cela, n'est-ce pas ? Vous comprendrez ce qui suivit quand Lady Janet s'ouvrit de sa négociation matrimoniale. Mercy Merrick s'est perfectionnée dans son rôle et il faut lui rendre justice, elle n'est pas femme à le mal jouer. Les sentiments les plus magnanimes coulèrent de ses lèvres. Elle déclara que sa vie entière serait vouée à des actes de charité symbolisés naturellement par l'enfant trouvé et la vilaine petite fille. Et cela, quelque souffrance personnelle qu'elle pût en éprouver, quel que fût le sacrifice de ses propres sentiments. Observez avec quel art ceci fut introduit pour insinuer qu'elle-même était amoureuse de Julian. Mais elle ne pouvait accepter de M. Julian Gray un honneur dont elle se sentait si indigne. Sa reconnaissance envers lui et l'intérêt qu'il lui inspirait lui défendaient également de compromettre un avenir si brillant en consentant à un mariage qui la vilirait dans l'esprit de tous ses amis. Elle le remerciait avec des larmes, elle remerciait Lady Janet avec plus de larmes encore, mais elle n'osait pas, par égard à la bonne renommée de Julian et pour son bonheur, accepter ce qu'il lui offrait. Que Dieu répande sur lui ses bontés et le console. Que Dieu lui vienne en aide à elle-même pour supporter le lourd fardeau de sa vie. Le but de cette méprisable comédie était assez clair à mes yeux. Elle veut simplement tenir Julian à distance. Julian, comme vous le savez, est pauvre. Jusqu'à ce que Lady Janet, à ses arguments persuasifs, ajoute quelque chose de plus solide. Lady Janet délira les cordons de sa bourse. Sans le langage odieux de cette misérable femme et sans la crédulité vraiment navrante de la pauvre vieille, toute cette histoire ferait un bon sujet pour une pièce comique. Mais le côté le plus triste du récit est encore à venir. Dans le temps voulu, la décision de la dame fut communiquée à Julien Gray. Il perdit immédiatement le sens. Le croiriez-vous, il a renoncé à sa cure. À une époque où l'église est pleine chaque dimanche pour l'entendre prêcher, ce fou ferme la porte et descend de la chaire. Lady Janet elle-même n'était pas assez aveuglée par sa folie pour approuver cela. Elle lui a fait des remontrances, se joignant à tous ses amis. Remontrances inutiles. Il n'opposait qu'une réponse à tout ce qu'on pouvait lui dire. « Ma carrière est finie !» Quelle dérision ! Vous me demandez, et cela est assez naturel, ce que cet homme pervers va faire à présent ? Je n'ai aucun scrupule à vous avouer qu'il est dans une disposition d'esprit qui pourrait le porter au suicide. Je vous en prie, ne vous alarmez pas. Il ne faut redouter pour lui ni le pistolet, ni la corde, ni la rivière. Julian fait simplement sa cour à une mort permise par les lois divines et humaines. Ceci est un langage étrange, je le sais. Vous allez connaître les faits et en juger par vous-même. Ayant donné sa démission de sa cure, son premier acte a été d'offrir ses services comme volontaire à une nouvelle société de missionnaires qui se dirigera vers la côte orientale de l'Afrique. Les personnes qui sont à la tête de la mission, fort heureusement, ont montré qu'elles avaient un bon sentiment de leur devoir. Après avoir exprimé leur opinion courtoise sur la valeur de l'assistance de Julian dans les termes les plus aimables, ils ont néanmoins déclaré aux néophytes qu'ils n'accepteraient sa proposition que s'il se soumettait à l'examen d'un médecin compétent. Julian a éprouvé quelques hésitations et enfin y consentit. Le rapport du docteur est concluant. Dans l'état actuel de santé de Julian, le climat de l'Afrique occidentale le tuerait, selon toute probabilité, en 3 mois. Il a donc subi un échec à sa première tentative et il s'est alors adressé à une mission de Londres. Là, il était impossible de soulever la question de climat, et là, je le dis avec chagrin, il a réussi. Il est à l'œuvre maintenant. En d'autres termes, il risque résolument sa vie dans cette mission qui le conduit à l'un des faubourgs les plus éloignés de Londres. Ce quartier est situé sur les bords de la Tamise et il est notoirement infesté par les malheureux les plus désespérés et les plus méprisables de toute la population de la métropole, tellement peuplée d'ailleurs qu'il est rare qu'une épidémie n'y remplace pas l'autre. C'est dans cet horrible lieu et parmi ces gens redoutables que Julian est maintenant occupé du matin au soir. Aucun de ses anciens amis ne le voit jamais. Depuis qu'il a rejoint la mission, il n'a même pas rendu visite à Lady Janet Roy. Ma tâche est accomplie, tous ces faits vous sont désormais connus. Ai-je tort en envisageant aussi tristement l'avenir ? Je ne puis oublier que ce malheureux fut autrefois mon ami et je ne vois réellement plus d'espoir pour lui. Il brave délibérément la violence des coquins et la contagion. Qui pourra l'arracher à cette terrible besogne ? Une seule personne et son union avec elle serait l'achèvement de sa ruine. Je parle de Mercy Merrick. Dieu sait les malheurs que mon pénible devoir peut m'obliger à vous apprendre dans ma prochaine lettre. Vous êtes assez bonne pour me demander de vous donner des nouvelles et pour m'interroger sur mes projets. J'ai fort peu de choses à vous dire sur ces 2 points. Après ce que j'ai souffert, ayant vu tous mes sentiments foulés aux pieds, toute ma confiance trahie, je suis, quant à présent, à peine en état de décider ce que je ferai plus tard. Reprendre mon ancienne profession, rentrer dans l'armée, je ne veux pas y penser. Dans ces jours d'égalité, une personne obscure en état de passer un examen peut arriver au même grade que moi, m'appeler son frère, et un jour, peut-être, me commander même comme mon supérieur hiérarchique. Si je songe à une carrière quelconque, c'est à la carrière diplomatique. La naissance et l'éducation n'y ont point tout à fait disparu et sont des qualités essentielles dans cette branche du service public. Mais je n'ai encore rien décidé. Ma mère et mes sœurs, au cas où vous viendriez en Angleterre, me prient de vous dire qu'il leur serait on ne peut plus agréable de faire connaissance avec vous. Sympathisant avec moi, elles n'oublient pas ce que vous aussi vous avez souffert. Un accueil cordial vous attend quand vous pourrez nous faire votre première visite. Bien sincèrement à vous, Horace Holmcroft.